Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit, ou...
Quand j'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois, j'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université. La joyeuse bande de la première radio étudiante de la 9e plus vieille fac d'Europe est de retour. Et non, chers habitués du rendez-vous, ce n'est toujours pas Thomas, notre animateur star aux commandes, mais bien moi, Abel. Mais pas de panique, n'éteignez pas votre radio, je vous promets une émission à la hauteur. Ce soir, on vous promet du rire.
Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire.
J'espère pas.
Non.
Des débats poignants.
Parce que... Moi ? Parce que... Mais oui, bien sûr,
moi
votre parti...
Mais qui elle est, celle-là ? Qu'est-ce que j'ai
RPR,
fait, moi ?
Le RPR, l'UDF, le PS et le PC.
De la poésie.
Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Tous les bons plans étudiants de la rive droite et peut-être de la gauche. Et la réponse à la question que la France entière se pose, qu'est-ce que c'est qu'être étudiant à la Sorbonne ? Pour m'accompagner dans cette quête ce soir, je suis avec Marine. Salut Marine.
Salut Abel.
Mais aussi Mélina. Comment ça va Mélina ?
Super, et toi Abel ?
Super. Également votre host de la semaine dernière. Bonsoir Lodine.
Salut Abel. Ce soir, je vous parle de Victor Cousin.
Une autre, Louane, la nouvelle recrue du Mercato.
Bonsoir Abel.
Une autre nouvelle recrue du Mercato, il a été fructueux, Maëlys.
Bonsoir.
De quoi tu nous parles Maëlys ce soir ?
D'un reportage sur les galères des transports à Paris.
Intéressant. À la réalisation et pour la chronique pavée, le chouchou des étudiants, Thomas.
Je suis trop content de pas faire l'animation ce soir, c'est les vacances.
Et pour couronner le tout, Victoire pour l'interview actu.
Bonsoir.
Et donc nous aurons le plaisir d'accueillir ce soir Alice Miller, maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission, un mercredi sur deux et en direct un vendredi par mois, saison 3, épisode 3 de Cours d'honneur, revoici la bande de Cours d'honneur. Et pour bien démarrer ce soir, voici l'édito, la carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment possible.
Carte blanche.
Alors apparemment, ce soir, Marine, tu nous présentes un édito un peu hors norme, puisque tu viens nous présenter des personnages qui le sont, justement, en dehors de la norme.
Et oui Abel, ce soir j'ai décidé de nous réunir autour du thème de la folie à travers un top 5 des personnages les plus fous du cinéma. Mais alors, me direz-vous, pourquoi cet attrait soudain pour la folie ? Eh bien parce que samedi je suis allée au cinéma, envers et contre toutes les punaises de lit, voir Le Ravissement d'Iris Kaltenbach. Le nom est compliqué. Sans vous dévoiler l'histoire plus que de raison, je dois tout de même vous avouer que j'ai été touchée, très souvent, perturbée parfois, par la folie du personnage principal. Ce personnage, c'est Lydia, sage-femme très investie dans son travail qui, à la suite d'une rupture, s'enferme dans une spirale de mensonges. Et si Lydia est aussi bouleversante dans ses failles et ses déviations, c'est peut-être parce qu'elle incarne une folie pas si loin de nous, nous autres, les gens normaux. Finalement, sa folie, c'est une folie ordinaire, celle des laissés pour compte, des monsieur et madame tout le monde qui, faute d'amour, s'inventent une vie meilleure. Bon, si la folie de Lydia, je la comprends en partie, il y a quand même un paquet d'autres fous du cinéma dont je n'aurais pas aimé croiser la route. Et justement, j'en arrive enfin au top 5 des plus gros tarés, allumés, détraqués du 7e art. Qui sont donc les 5 personnages les plus fous qui aient été portés à l'écran ? Commençons par un classique. Je ne voulais pas vous effrayer dès la 5e position du classement. Et donc, pour éviter les mauvaises surprises, j'ai choisi un fou déjà bien connu de tous. Ce fou iconique, c'est le personnage de Norman Bates dans l'indépassable Psychose d'Alfred Hitchcock. Et il faut bien le dire, dans l'imaginaire populaire, ce personnage est devenu la personnification même du psychopathe. Complexe d'Oedipe, dédoublement de la personnalité, tout y passe avec Norman qui finit d'ailleurs par se prendre pour sa propre mère. Alors, toujours dans un souci d'éviter les mauvaises surprises, voilà, je vais bien me garder de lancer le débat du type. Et vous alors, est-ce qu'il y en a autour de la table qui se sont déjà pris pour leur mère ? Voilà, c'est bien ce que je dis, tout le monde est gêné et personne ne veut ce moment. En quatrième position, nous retrouvons le personnage d'Amy dans le film Gone Girl, réalisé par David Fincher. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film, mais dans le doute, résumons rapidement en quoi consiste la folie d'Amy. Alors dans le film, le personnage d'Amy décide, avec un aplomb déconcertant, il faut bien le dire, de délivrer une sorte de recette détaillée des étapes nécessaires pour dissimuler sa propre disparition, afin de faire croire à coup sûr à sa mort, alors qu'elle est bien vivante, et accuser au passage son mari innocent. C'est ce qu'on appelle une pierre de coup. Dans le genre réécriture de la réalité et manipulation extrême, on est pas mal. En troisième position, le personnage de Patrick Bateman dans le film American Psycho. Patrick est l'incarnation même du Yuppie, qui s'improvise tueur en série. Vice-président d'une grande banque d'affaires à New York, il cache en fait l'identité d'un dangereux psychopathe qui méprise profondément le monde autour de lui, à commencer par ce SDF dont il décide d'abréger les souffrances dès les premières minutes du film, tant il a le cœur sur la main. En seconde position, nous retrouvons le méchant d'anthologie du Silence des Agneaux, le dénommé Hannibal Lecter. Incarné à la perfection par Anthony Hopkins, ce personnage est un psychiatre pour le moins particulier, puisqu'il est à la fois, et oui ça arrive, médecin et cannibale. Totalement immoral, incapable d'éprouver pitié ou remords, ce personnage compte parmi les génies du mal les plus fascinants du cinéma, à tel point d'ailleurs qu'on le retient davantage comme un monstre que comme un fou, ce qui est bien dommage. Et enfin, en première position, nous retrouvons l'éternel rival de Batman, un drame lui a même été entièrement consacré en 2019, nous parlons évidemment du Joker. Personnage complexe et fascinant, ce méchant emblématique est avant tout l'incarnation même de la démence. En effet, ce qui rend le Joker aussi troublant que terrifiant, c'est précisément qu'il ne possède pas de pouvoir particulier. Dans le fond, le Joker est un fou banal, marginal, sans don extraordinaire, qui agit uniquement par pure impulsivité, sans le moindre sentiment, ni la moindre empathie. Mais, il faut bien le dire, le Joker n'apparaîtrait pas pour le bouquet final des tarés s'il était simplement méchant et inhumain. Car en effet, s'il existe quantité de versions qui explorent ce Joker sociopathe et psychopathe, le dernier film de Todd Phillips se démarque en nous présentant un Joker plus humain. Finalement, il ne nous raconte rien d'autre que le portrait d'un individu torturé par une société qui n'a jamais voulu de lui, et ce jusqu'à conduire son personnage à la folie, et ce qui me pousse moi à porter une affection toute particulière pour cet enfant mal aimé et rejeté. Comme quoi, et je finirai sur cette conclusion profonde, on peut être fou et susciter l'empathie. Et voilà, Belle, j'en ai déjà fini les fous pour ce soir.
Eh ben écoute, Marine, merci pour ce partage de folie. Autour de la table, vous avez vu les films dont elle a parlé, un peu ? Oui, Joanne.
Moi, je les ai vus pour la plupart, et je suis assez d'accord avec le partage, enfin l'empathie que tu ressens pour eux, parce que ouais. Je pense que c'est le côté où on se dit, enfin moi, je suis à deux doigts de devenir folle parfois.
Tu t'es déjà prise pour
on
ta
s'en
mère,
doutait un peu. Ou...
Non, je me suis jamais. Non. Mais il y a le côté très humain, comme tu dis, qui. Enfin, je sais pas, je ressens beaucoup de compassion pour ces pauvres gens, comme on dit.
Ok, de la compassion.
Bien vu pour Amy de Gone Girl, c'est oui. Un des films qui m'a le plus bouleversé ces dernières années.
On l'oublie trop souvent, on alors qu'elle
exactement.
Est incroyable
ouais,
dans
ouais.
Sa folie.
Grosse tarée, ouais, pour le coup. Ouais.
D'autres passions pour les fous autour de la table ou non ? Ouais, vous êtes sain d'esprit ?
Moi, contrairement à tout le monde, je pense, j'en ai vu aucun, parce que j'ai très peu de culture cinématographique. Mais aussi parce que j'évite de me faire du mal. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur et j'ai peur de m'identifier trop en fait à ces personnes-là dans le sens où toutes leurs folies sont possibles en fait comme le Joker qui se sentait rejeté etc. Et j'ai l'impression que tout le monde est susceptible à un moment ou à un autre de pouvoir devenir comme ça. Et...
On va éviter de te rejeter ouais. Alors du coup parce que faudrait ouais. Pas que tu pètes un plomb.
Voilà, et là l'émission prend une toute autre tournure.
En tout cas, il y en a qui veulent regarder des films avec de la folie, il y en a d'autres. C'est un débat, mais comme on dit dans la vie. Il y a des hauts et il y a des bas, et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Lundi, la France commémorait les 3 ans de l'assassinat de Samuel Paty, quelques jours après l'attaque terroriste contre le lycée d'Arras, où le professeur Dominique Bernard a été tué. Le choc est immense, mais nous rappelle combien les enseignants sont importants. Quel est le prof qui a marqué votre scolarité ? On vous a posé la question.
Moi, l'enseignante qui m'a marquée, c'était du coup ma professeure de TD en L1 et en L2, Lucie Jardot, qui était du coup doctorante, enfin qui l'est toujours d'ailleurs. Et en fait, elle m'a beaucoup marquée surtout par sa bienveillance et les conseils qui dépassaient beaucoup le cadre scolaire, je veux dire, sur tous les doutes que j'ai pu avoir pour mon choix de master, d'études, que ce soit concernant son domaine ou non, elle a toujours été extrêmement bienveillante. Et donc, je repense souvent à elle.
Moi, c'était ma prof de français en première et terminale. C'était une prof qui était vraiment passionnée par ce qu'elle enseignait. Elle adorait en fait la littérature. Elle a réussi à transmettre cet amour de la littérature pour tous, même les élèves qui étaient moins motivés.
C'était un homme passionnant, un homme très cultivé, qui a vraiment réussi, pas que chez moi, chez plusieurs élèves, on en avait discuté à l'époque, à susciter l'intérêt pour l'histoire géo, pour la géopolitique aussi, pour beaucoup de sujets, beaucoup d'ouverture d'esprit.
C'est mon prof d'histoire-géographie en seconde et en première. Et c'est un prof qui était passionné de ce qu'il faisait et qui poussait ce qu'il faisait pour nous amener à s'interroger sur le monde actuel et sur la société. Ce qui est intéressant, c'est que je vais faire un stage d'observation avec ce prof dans quelques mois. Donc la boucle est un peu bouclée.
C'était pendant ma première année de prépa, c'était ma prof de français, Madame Pigné. Elle offrait vraiment une ouverture sur la littérature, etc. Donc je la remercie pour ça, parce que c'est grâce à elle que je suis ici. Quoi.
L'enseignante qui m'a le plus marquée, c'est ma prof d'histoire géo. Une femme qui était assez jeune, et qui était normalienne, qui sortait juste de ses études, et qui avait un rythme de... Elle était un petit peu sèche, elle avait un rythme de travail qui était très très effréné, mais juste elle était très exigeante. Et avant de partir en post-bac, je lui avais envoyé un long mail pour la remercier de tout l'enseignement qu'elle m'avait apporté et tout ce qu'elle m'avait apporté dans ma vie. Et elle m'a jamais répondu à ce long mail, parce que je pense que c'était un petit peu trop déplacé, disons. Suite au résultat des concours, elle m'a renvoyé un mail et en me disant qu'en fait, elle avait cherché mon nom sur la liste des sous-admissibles et qu'elle m'avait trouvé et qu'elle me félicitait et qu'elle était très fière de moi et que toute l'équipe d'enseignement de mon lycée était très fière de moi et tout. Et ça m'a fait beaucoup de... Enfin, ça m'a procuré beaucoup d'émotions parce que j'avais un peu l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose et j'avais fini par rendre fière cette prof qui avait un peu... qui était un peu impossible à rendre fière.
C'était mon professeur de spécialité philosophie en deuxième année de prépa, monsieur Thibaut Grèce, et il m'a marqué parce qu'il m'a vraiment donné goût à la philosophie en général. Et encore aujourd'hui, quand je me sens perdu au niveau méthode, je repense à la structure de ses cours et je la reproduis autant que je peux.
Donc je vois qu'il y a des gens qui ont eu des relations passionnelles quand même avec leurs profs. Vous, autour de la table, il y a des profs qui vous ont marqué, qui vous ont dégoûté de certaines matières. Moi, je sais que ma prof de maths de 6e m'a dégoûté des maths parce que c'était une très mauvaise prof. Mélina.
J'ai entendu beaucoup d'exemples de personnes qui parlaient de leur prof de prépa. Et c'est vrai que moi, le prof qui m'a le plus marqué de toute ma scolarité, c'était mon professeur de géographie d'Hippocagne, parce qu'il avait un enseignement très peu classique, justement, par rapport à d'autres profs de prépa. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui m'a donné envie de faire ce que je veux faire aujourd'hui. Donc voilà, Jérôme Dunlop, s'il nous écoute, on l'embrasse.
On vous embrasse, Jérôme. Les autres qui sortent de prépa ici ou pas du tout?
Alors non, je sors du lycée.
Sors du lycée, c'est pas grave. C'est très bien le lycée aussi.
Mais j'ai deux professeurs, ma professeure de littérature et de latin du lycée, qui m'ont énormément aidée, qui sont d'ailleurs des anciens élèves de Sorbonne Université, et qui m'ont longuement aidée de m'appeler tous les soirs pour m'aider à faire mes lettres de motivation, mes demandes de CV, mes aides en cours pour faire toutes mes options possibles et inimaginables pour être acceptée ici. Donc elles m'ont envoyé plein de messages pour me féliciter. Elles sont même venues ici pour ma rentrée. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup.
Ok, c'est devenu des mères.
Voilà, c'est ça. On se parle toujours, on s'appelle.
Okay. D'accord. Ok, j'ai vu des têtes étonnées. Non, il y a vous, Victoire, j'ai vu que tu étais étonnée. Les profs, pas de bons souvenirs?
Si, des bons souvenirs, mais c'est vrai que j'ai pas eu la chance d'avoir une relation aussi fusionnelle avec mes professeurs. Mais c'est trop cool. C'est vrai que moi, j'étais dans un lycée qui était très élitiste, très on vous prépare à la prépa. Ma professeure de littérature anglaise était vraiment en dehors de cette pensée-là, et c'est celle qui m'a le plus marquée, je pense, parce qu'elle nous mettait le moins la pression. Donc.
Comme quoi, des professeurs, ça marque la vie. C'est pour ça que ce qui nous passe en ce moment peut beaucoup nous toucher.
Moi, dédicace à Claudette, ma prof de petite section maternelle. Oui. Sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui.
Okay, heureusement, elle t'a appris à parler dans un micro.
Exactement. Ça, c'est bien.
En parlant professeur, voici l'invité actu.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Cette semaine, dans Cours d'honneur, nous recevons Alice Milor, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Sorbonne Université. Bonjour.
Bonjour.
Dans son allocution en hommage à Samuel Paty, Emmanuel Macron a déclaré « On a tous dans nos cœurs un professeur qui nous a tendu la main et nous a changés. » Samuel Paty était de cela. En ce qui vous concerne, y a-t-il un professeur qui vous a tendu la main et qui vous a changé ?
Oui, en effet, je pense qu'on a tous dans nos cœurs un professeur qui a changé la donne, au moins un. Pour ma part, c'était une enseignante de lycée que j'ai eue en première, en terminale, au lycée Limoges, c'est Renoir à Limoges. Madame Robert, qui m'a clairement ouvert à cette discipline. Et puis après, j'ai eu d'autres enseignants en classe préparatoire qui m'ont véritablement formée pour accéder à un peu plus dans cette discipline.
L'année prochaine, vous publiez Une démocratie technique européenne, les associations de consommateurs et les normes automobiles à Bruxelles dans les années 1980. Selon vous, à quel point l'industrie automobile a-t-elle contribué à la construction européenne ?
Alors c'était le sujet de ma thèse qui croisait en fait à la fois une perspective européenne et une perspective plus économique au croisement de, donc, du coup, de l'histoire de l'intégration européenne et l'histoire de la business history. Et effectivement, ce que je montre dans ce travail, c'est qu'on a des perspectives liées entre les deux sujets, à la fois la fabrique d'une politique européenne pour l'industrie automobile et puis la fabrique de l'automobile par l'Europe, avec, du coup, je le disais, hein, des trajectoires liées. L'avenir de cette filière se joue aussi à Bruxelles. J'ai montré, en fait, comment les trajectoires mêlées de l'industrie automobile et du projet européen, à l'heure où on a une concurrence mondiale avec notamment le Japon, est une question tout à fait pertinente. Alors, dans cet article en particulier, il s'agit de revenir sur des normes environnementales anti-pollution et de prendre ce sujet par un aspect qui a été moins abordé par les travaux des scientifiques, c'est-à-dire par la question du poids de la société civile, le poids des associations de consommateurs notamment et aussi des ONG environnementales, essayer de voir si on est sur une forme de démocratie technique ou alors plutôt quelque chose qui arrive par le haut, des normes qui arrivent par le haut avec une pression des lobbies industriels. Et donc c'est un sujet qui est particulièrement effectivement intéressant puisqu'il y a toute la question aussi des solidarités ou au contraire des rivalités entre les États membres et les puissances productrices d'automobiles.
Vous avez parlé du Japon. C'est vrai que quand on pense automobile, on pense aussi parfois aux États-Unis où l'automobile est une réelle religion. Donc le poids des États-Unis sur le marché mondial de la construction automobile est absolument énorme. Comment les Européens ont-ils réussi à tirer leur épingle du jeu ? Est-ce que le Parlement européen a permis de peser dans l'industrie européenne mondiale ?
Alors effectivement, vous avez raison de le rappeler, hein, les États-Unis ont un poids considérable, hein, pour ce qui est de l'industrie automobile, avec une rivalité très forte. On a parlé du défi américain, des politiques européennes qui essaient de se construire aussi en parallèle des normes, par exemple, américaines, avec une vraie bataille autour de ces normes, puisque derrière, il y a des enjeux de libéralisme ou de protectionnisme. La question du Parlement européen est intéressante, puisque c'est une un des trois pouvoirs décisionnaires, vraiment, à Bruxelles. Dans les faits, le Parlement européen, dont les députés sont élus, hein, depuis 1979, ce que je montre, c'est que le Parlement européen a eu beaucoup de mal à s'imposer dans les débats historiquement, à s'imposer sur le sujet avec en fait deux acteurs qui étaient primordiaux. C'était l'industrie automobile, les entreprises elles-mêmes qui sont structurées dans un lobby à Bruxelles depuis 1972 et l'interlocuteur privilégié qui était la DG3 de la Commission européenne en charge des affaires industrielles, du marché intérieur. Et donc le Parlement européen a eu un peu de mal dans les années 70, encore 80, à prendre toute sa place. Mais dans les années 90, on a un vrai changement, notamment avec le traité de Maastricht en 92, hein, qui fait du Parlement européen un co-décisionnaire sur les directives. Et donc, le Parlement européen prend de plus en plus de place.
Donc, précédemment, vous avez également parlé du Japon. Actuellement, ils ont créé le modèle de voiture le plus vendu au monde, hein, la Toyota Corolla. Est-ce que on pourrait expliquer ce phénomène par une stratégie marketing ou une particularité de construction ? En fin de compte, est-ce que les voitures sont construites en fonction de la population ou est-ce qu'on souhaite construire une voiture pour qu'elle touche le monde entier ?
C'est une bonne question. Les constructeurs automobiles ont d'abord cherché à se positionner sur leur marché domestique globalement, à produire voilà, des voitures qui répondaient aux attentes des marchés locaux. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout les mêmes voitures aux États-Unis aussi qu'en Europe. Donc le Japon est au début dans cette perspective, mais le Japon a... Enfin, quand on dit le Japon, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Hein, il y a les industriels, le ministère de l'Industrie, etc. Mais le Japon a eu véritablement une stratégie de conquête des marchés internationaux. En particulier dans les années 80, on passe du défi américain au défi japonais. Et ça se traduit en Europe par des implantations d'abord au Royaume-Uni, tête de pont des Japonais en Europe, et avec un sentiment en Europe d'un grand danger, d'une menace, avec tout un tas de stéréotypes racistes à l'égard des Japonais. Et les Européens parlent de l'introduction d'un cheval de Troie dans la forteresse Europe à ce moment-là, hein, pour dire à quel point le sentiment d'une menace est forte.
Et pour revenir à actuellement, récemment, l'Europe a annoncé son plan de transition des moteurs thermiques vers les moteurs électriques, visant à la suppression des moteurs thermiques, d'ici 2035. Selon vous, est-ce que c'est réellement envisageable ?
Question fondamentale. Alors bon, moi, je ne fais pas trop de prospective, même si je suis sur des enjeux d'histoire du temps présent. Ce qui est sûr, c'est que la question posée, c'est comment l'UE, avec les États membres et les industries autour, hein, arbitre entre des objectifs climatiques fondamentaux et des réalités socio-économiques aussi qu'on ne peut pas oublier. Donc certes, on a l'impératif environnemental, mais il semble qu'il y ait quand même deux problèmes importants. Le premier, c'est que cette électrification, que certains disent à marche forcée, pourrait engendrer la suppression de centaines de milliers d'emplois en Europe, donc avec des enjeux hein, derrière de chômage. Pour l'industrie, le défi, c'est de transformer toute une filière de production, de développer des compétences, de reconvertir des emplois. Voilà. Et l'autre enjeu, c'est la question de l'accès. Du coût du véhicule électrique, hein, puisque pour l'instant, ce sont des véhicules qui sont extrêmement chers. Et donc, comment accompagner les ménages sur ces achats ?
Et pour finir, que représente la Sorbonne pour vous ?
Beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. La Sorbonne, au-delà de ce que c'est en soi, un lieu de savoir, un lieu de formation, c'est aussi un endroit où j'ai un grand plaisir... à aller travailler. C'est aussi une institution qui m'a formée à travers ma thèse. C'est une institution qui au quotidien est très importante et pour moi et je pense aussi dans l'absolu, mais comme d'autres universités aussi.
Merci beaucoup.
Il est 20h32, nous sommes toujours en direct dans Cours d'honneur comme un vendredi par mois au 93.9 de l'autoradio. Et il est de retour avec un tout nouvel album, le Certified Lover Boy de Toronto, Drake. Et voici What Would Plutôt Do du nouvel album All For The Dogs dans Cours d'honneur. Working on her, I'm not finished. Last time I saw her, she was fucking with my nigga. So the question is, what would Pluto do he for the hoe? So I did it. What would Pluto do he for the hoe? So I did it. What would Pluto do he definitely fucking on his hoe? Ayy, wiggling back into my old ways. Ayy, bunch of sedative hypnotics in my system. Okay, life is going just how I predicted. Okay, dropping two Cialis in a liquid. Okay, I ain't got a strap, I gotta risk it. Okay, baby girl, Adonis need a sister. Okay. And my baby mama out the picture, okay. Think I'm Illuminati cause I'm rich, well, okay. Diamonds in the sky, put your face down. Ass in the air, two cups up, ayy. Bustin' all bills, giving shit trail. Packin' new cell, new roll, order for the thrill. Too lazy, even change out the wheel. Yeah, thought they knew my body, guess they don't. Thought they knew my body, guess they don't, ayy. Thought they knew my body, guess they... Guess they don't. I'm geeking off of my pride. Lost my Sprite deal cause Wayne kept pulling fights. You know I'm beefing with much older guys. Before I catch up with them, they'll probably ain't what. RP don't fuck niggas. Damn, what? Really hate a rap nigga. Let's not even talk about.
about them fuck niggas, fuck them. Hit my line talking about what's up, well, what's up then? Last time I saw you, you was talking about reduction. Looking at you now, I see you ain't get rid of. Looking at you now, I see you ain't get rid of nothing. Where you get the jeans from? Who sold the buttons? Cause that shit still popping out the front and the back. That shit still popping out the, damn. That shit came popping out them jeans like a ghost. Girl, you gotta pop that on me like a coat. So I wanna crack behind your back like a joke. So I wanna lift you up high like your hopes. So I wanna tear your box out like a coach. Get inside and Benedict just like the Pope. Girl, you got me begging for a 10 like I'm broke. Girl, I want us hanging in the summer like a coat. Girl, I wanna slide in your box like a vote. Tryna have you coming out your shell like the yoke. But I heard you fucking with a nigga that I know.
Okay, sir.
Damn, okay, I've been out of the way and the cut has been a minute. Working on her, I'm not finished. Last time I saw her, she was fucking with my nigga. So the question is, what would Pluto do for the whole?
C'était la douce mélodie de Drake et tout de suite, une toute nouvelle chronique.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
La semaine dernière, elle était animatrice. Aujourd'hui, Laudine nous présente le premier épisode de notre toute nouvelle chronique Sorbonne en personne. Une chronique qui raconte l'histoire des grands personnages de la Sorbonne pour vous, les futurs grands personnages de la Sorbonne. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de votre mère ni de votre frère, mais de l'homme qui a donné son nom à la rue qui longe l'université. J'ai nommé Victor Cousin.
Exactement, Abel. Mais c'est qui ce cousin? Quel lien cet homme mystérieux entretient-il avec notre université? J'ai mené l'enquête rien que pour vous, et ce soir, je vous raconte son histoire. Allez, c'est parti. Nous sommes le 28 novembre 1792 à Paris. Louis XVI a été destitué, va bientôt être guillotiné, et Victor Cousin, que je me permettrai de surnommer Totor, vient de naître. Ses parents, un ouvrier joaillier et une repasseuse blanchisseuse, sont sans le sou et n'ont pas d'argent pour le mettre à l'école et s'en occuper. Le petit passe donc toutes ses journées à errer devant le lycée dans lequel il aurait rêvé d'aller. Un jour, il voit un petit gars en train de se faire embêter. C'est Épagomène Viguier. Non, c'est pas un nom de médicament, c'est vraiment son prénom. Et donc, lorsqu'il voit ce gamin en train de se faire harceler, le sang ne fait qu'un tour dans la tête de Totor, qui se jette corps et âme dans la mêlée et pète la gueule à tous les gosses de la récré. Épago Machin, éternellement reconnaissant, rapporte cet acte d'héroïsme à sa maman qui décide qu'elle se chargera des frais d'instruction de Totor pour le remercier. Notre Victor Cousin, la petite racaille du quartier, fait donc sa rentrée au lycée. Et il s'avère qu'il est carrément surdoué. À 14 ans, il est bachelier. À 21 ans, agrégé, médaillé du concours général. Il entre même à l'école normale. Évidemment, il est toujours au premier rang.
Vous pouvez pas me taper, j'ai des lunettes.
Au bout de ses 2 ans à l'ENS, Monsieur Cousin se voit proposer la chaire de philosophie du Collège communal de Rome, qu'il refuse parce qu'il ne veut pas, je cite, quitter le pavé de Paris. Ils sont vraiment ch'tarbés, ces Parisiens. Il devient donc professeur de grec et est ensuite nommé, attention, c'est là qu'il entre dans l'histoire de notre université, prof d'histoire de philosophie moderne à la Sorbonne. Il publie un livre intitulé « Du vrai, du beau, du bien », plutôt positif comme programme, et se revendique de la philosophie de l'éclectisme. Honnêtement, me demandez pas ce que c'est, j'ai cherché et j'ai rien compris. Bref, tout allait bien pour Totor jusqu'au jour où, en 1820, sous la Restauration, drama. À cause de ses idées libérales qui déplaisent aux ultra-royalistes, il est viré de Sorbonne Université.
Laudine, on avait dit des personnages célèbres, hein, pas des cancres.
Oui, attends Abel, laisse-moi continuer. Coup dur pour Victor, donc. C'est la déprime, tout va mal, tout va très très mal. Pour s'occuper un peu et pas s'effondrer, il se fait embaucher comme précepteur et traduit les œuvres de Platon et de Proclus dans leur intégralité. Devait être vraiment désespéré. Puis il part en Allemagne, hop, sur un coup de tête. Son psy a dû lui dire que ça lui ferait du bien de prendre un peu l'air et de se changer les idées. Sauf que là, bam, il est accusé de carbonarisme et est emprisonné. Alors je vois venir, Le carbonarisme, aucun rapport avec les pâtes. En fait, c'était une société secrète révolutionnaire contre le gouvernement de l'époque. Donc le pauvre Totor qui était déjà déprimé, en plus on le fout dans les cachots de Berlin pendant 6 mois. Là, il attrape des varices, il a froid, il crève de faim. Mais lui, la seule chose qui l'angoisse, c'est pas d'être en prison, non non. C'est qu'il a pas fini sa traduction de Platon. Puis finalement, son meilleur pote Hegel réussit à le faire libérer. Et comme à Paris, tout le monde a eu un peu de peine pour lui, ils se disent « Bon, on manque de profs, il a pris cher, on peut peut-être le reprendre maintenant. » Et c'est comme ça qu'en 1828, c'est le retour du cousin, sa renaissance. Il devient une véritable star. Élu à l'Académie française, on le surnomme le roi des philosophes. En 1840, il est nommé ministre de l'Intérieur, directeur de l'école normale et a même son appartement à la Sorbonne. On peut dire qu'il prend un peu le melon. Puis finalement, après la révolution de 1848, il est nommé professeur honoraire à la Sorbonne et se retire à Cannes pour se reposer et travailler sur l'étude des femmes célèbres du XVIIe siècle. C'est un peu d'ailleurs les seules femmes qu'il a fréquentées dans sa vie, quoi. Des femmes décédées depuis... 200 ans ? Mais, je suis un peu médisante avec ce pauvre Totor. Parce qu'il aurait quand même eu une amante. Une femme mariée, j'ai nommé Louise Collet. Une poétesse à qui il décerne le prix de l'Académie française pour une œuvre qui, à ce qu'on dit, ne le méritait pas trop trop. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, hein ? Et avec elle, il aurait eu une petite fille, Henriette. C'est en tout cas ce que raconte le journaliste Alphonse Carr, rédacteur de la presse People de l'époque, avant de se faire planter au couteau par Louise, un peu vénère de voir sa vie privée affichée. Je vous rassure, Alphonse n'est pas mort, il aurait même mis le couteau en vitrine avec pour indication « offert par Louise ». Enfin, en 1864, la rue de Cluny qui longe notre belle université devient rue Victor Cousin et, 3 ans plus tard, en 1867, c'est la fin pour notre cher Totor qui décède et est enterré au Père Lachaise. Rest in peace, Totor. Ton souvenir restera gravé à jamais dans nos cœurs. Sur ce, c'est pas tout, mais les vivants, ils ont du travail aussi. Perso, j'ai un deuxième épisode de Sorbonne en personne à aller préparer, donc je vais vous laisser. On se retrouve dans 2 semaines pour découvrir la vie d'un autre sorbonnard célèbre. Et qui sait, d'ici quelques années, peut-être que ce sera de vous dont je parlerai.
On espère aussi. Vous le saviez, vous, que Totor, il n'avait pas une meuf dans toute sa vie ? Non, je rigole. Vous saviez qui était Victor Cousin ? Non, moi je savais pas.
Non, mais j'ai hâte qu'on écrive un jour ta chronique de Sorbonne en personne, ce célèbre animateur de Radio Sorbonne.
Bah, Abel. En vrai, dès la semaine prochaine, genre. Enfin, je veux pas prendre la grosse tête, mais
ouais, je suis curieux de ce qu'on raconterait.
En tout cas, un jour, carte postale sur sa tombe, au Père Lachaise. Non ?
Mais okay. Tu vas pas avoir beaucoup de bruit à enregistrer, quoi.
Ok, ça c'est bien dit.
Après, il y a des tombes au Père Lachaise qui mériteraient une petite description. Je pense à celle du journaliste Le Noir, là. Je sais pas s'il y en a qui voient, mais allez voir, c'est génial.
On ira voir. En tout cas, il est 20h42 dans Cours d'honneur, qui est en replay sur nos plateformes 2 fois par mois depuis cette année, ne l'oubliez pas. Et tout de suite, Maëlys nous a concocté un reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Des Vélib cassés, hors service ou tout simplement des stations vides en permanence, des bus coincés dans les embouteillages qui roulent en moyenne à 11 km/h et des métros toutes les 8 minutes en heure de pointe. Se déplacer à Paris devient de plus en plus compliqué pour les étudiants, Maëlys.
De l'avis de tous, le pire moyen de transport à Paris cette rentrée, c'est le Vélib.
Ils sont tous en général en maintenance, il n'y a pas de batterie, c'est abîmé, c'est tous pris.
Je vois beaucoup de vélos cassés. Et aussi des stations fermées. À Saint-Denis, ça allait encore. Saint-Ouen, il n'y a rien. Il y a genre une station peut-être. Enfin, je ne sais plus. Il y a des endroits qui sont super mal desservis.
Face à la dégradation du service Vélib, les alternatives parisiennes semblent insuffisantes, estime Arthur. Cet étudiant en histoire enchaîne les galères dans le métro, jamais à l'heure.
On se retarde, on va dire, 5 à maximum 15 minutes. Il y a des rendez-vous, même des cours. Il faut toujours prévoir ces 15 minutes alors qu'on a d'autres choses à faire.
Même constat pour Romain, lui aussi en L3 d'histoire. Il doit anticiper ses déplacements en permanence.
Les petites galères, ça va arriver quand même assez quotidiennement quand même. Des petits retards de 10, un quart d'heure.
Et c'est sans parler de l'étroitesse de ce mode de transport, se plaint son camarade Merlan.
Qu'on est en vacances, en retour au pays ou à la région dont on est originaire et qu'on a les valises ou les gros sacs avec,
C'est un peu galère à traverser les portiques et tout ça.
Ce à quoi il faut rajouter l'abonnement Navigo à plus de 80 euros par mois.
Bah ça pique un peu, le prix pique un peu forcément, c'est pas toujours très évident.
Au total, l'an dernier, la RATP affiche 350 heures de retard sur son réseau.
Aïe aïe aïe, les galères de transport. Je crois, Maëlys, que tu avais un pamphlet à faire contre la RATP. Dis-nous en plus.
Alors, je suis très en colère contre la ligne 13, qui s'est déjà arrêtée 3 fois cette semaine, c'est-à-dire arrêtée complètement. Ils ont complètement arrêté le réseau à seulement 19h, donc on se retrouve à prendre le bus, donc 1h30 avec les bouchons.
Quoi ? Le bus ? Au secours !
Au secours, c'est pour les vieux, le bus.
Mais il m'est arrivé exactement la même chose avec la 4, puis la 2, et ça s'est arrêté à Barbès. Et alors à Barbès, et elle n'a pas redémarré. Donc j'ai dû aller prendre une autre ligne, mais c'était une galère parce que j'avais pas trop envie de sortir, d'aller marcher dans la rue.
Oui, je comprends. Victoire, ouais, un pamphlet contre les RATP.
Non, je vous trouve un peu difficile avec le bus. Personnellement,
on peut rapprocher le micro de Victoire.
Pardon.
Non, t'inquiète.
Personnellement, la ligne 27 de Les Écoles à Saint-Lazare est absolument magnifique. Passer devant le Louvre, passer devant la Comédie Française, c'est très beau.
Dédicace au 26 aussi, le bus 26 rue des Pyrénées. Voilà, arrêt ortho, tous les soirs je prenais le bus.
C'est bien, on pourra faire un jeu où on doit deviner toutes les lignes de bus de Paris après le jeu des lignes de métro et des stations.
Non, des dédicaces à des stations, à des bus lilas.
La ligne 6, franchement, la ligne 6, ouais.
Gucci,
très peu de retard, majoritairement aérienne, ouais. Jamais trop de monde. Je tiens à le dire, ouais, c'est, Gucci, très, ouais. C'est mon coup de cœur.
Validé par Marine.
Ouais, complètement.
Bon. La 14,
je suis complètement la ligne 6.
La 14, elle a des prises électriques. Hein.
Ouais, mais, franchement, je te jure qu'elle a pas l'âme de la 6. Ultra impersonnel, la 14.
En tout cas, ici, on adore ou on déteste la RATP. Ça pourrait presque en faire un débat. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que dans Cours d'honneur, c'est aussi des bons plans. Et donc, tout de suite, la chronique débrouille.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, la table !
Aujourd'hui, on parlera culture, mais surtout bon plan dans la culture, avec Loane.
Et oui, on nous vend toujours Paris comme la capitale de la culture, mais en tant qu'étudiant un peu fauché, c'est pas toujours si évident. Alors vous connaissez probablement déjà les bons plans pour les musées parisiens gratuits pour les moins de 25 ans. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de théâtre, qui est une sphère culturelle qui semble un petit peu plus inaccessible pour les petits budgets. Mais quand on a les bons filons, vous verrez qu'il est très simple de choper des places de théâtre pour peu cher. Alors on commence par le Théâtre 14, dans le 14e donc, où vous pouvez bénéficier de places à 1 euro pour les étudiants et ce toute l'année. Le théâtre Odéon, quant à lui, organise les Happy Thursday, durant lesquels il propose 100 places gratuites pour les étudiants sur leur site chaque jeudi à 18h pour le jeudi suivant. Donc, par contre, ça marche sur le système du premier arrivé, premier servi, alors il faut être quand même assez à l'affût pour avoir des places. Vous pouvez aussi vous rendre à la Comédie Française où, pour chaque représentation de la salle Richelieu, entre 65 et 85 places à 5 euros sont disponibles une heure avant le début de la représentation auprès du petit bureau. Toujours à la Comédie Française, tous les lundis, 85 places sont offertes aux moins de 28 ans, toujours une heure avant la représentation et toujours auprès du petit bureau. Bon à savoir également, les théâtres privés adhérents de l'ASTP proposent des places de première ou deuxième catégorie à 10 euros aux jeunes de moins de 26 ans. Ces places sont proposées les mardis, mercredis, jeudi, mais il est bon à savoir que certains théâtres peuvent proposer d'autres jours. Le mieux est toujours de les appeler pour avoir un maximum de renseignements. Et le dernier bon plan, c'est de se rendre dans les kiosques jeunes de la ville de Paris, car ils proposent aux moins de 30 ans des places gratuites ou à tarifs très réduits. Il suffit de se rendre dans ces kiosques et de choisir parmi les offres proposées sur place. Vous pouvez retirer 2 invitations par personne pour 2 spectacles différents. Alors voilà, avec ça, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas organiser une petite sortie au théâtre cette semaine.
Vous l'avez compris, la semaine prochaine, tout le monde au théâtre, vous n'avez plus d'excuses.
Ça.
J'espère que vous allez en profiter autour de la table. Je sais que Thomas, grand fan du Festival d'Avignon, va sûrement profiter de ça.
Ouais, ouais, grave, surtout que moi j'ai moins de 26 ans, ouais, donc je vais grave en profiter, ouais, bien sûr. Ouais.
Ah, ça va.
Voilà, non, mais excellent, je ne savais pas pour la Comédie Française. En revanche, je savais pour, je crois que c'est l'Opéra, l'Opéra Garnier, où si on se pointe pareil, une heure avant, il y a des places qui sont mises en vente à très peu cher.
Et super bon plan pour ceux qui nous écoutent, allez voir la DAC, Direction des Affaires Culturelles de Courcujas à Sorbonne-Mer. Dirigé par Yann Mugoubert, qu'on a reçu il y a deux semaines, qui propose déjà des représentations théâtrales au sein même de la Sorbonne gratuite et un peu comme ce que fait la mairie de Paris, des places moins chères pour les trucs culturels. Donc n'hésitez pas,
si vous voulez aller voir du théâtre. Il y aura toujours des punaises de lit, mais non, en vrai, il n'y en a pas au théâtre, il n'y en a qu'au cinéma.
Après, il faut encore pouvoir s'y rendre, parce que si le métro il s'arrête à Barbès, que l'Odine elle doit sortir à Barbès, mais vous rendez-vous compte, quoi, si elle doit marcher jusqu'au Bouffe du Nord, de Barbès jusqu'à...
C'est 200 mètres, quoi.
Non, mais c'est quand même...
Alors, arrêtez, mais vous savez qu'il n'y avait même pas de bus.
L'Odine la Châtelaine, hein, vraiment.
Il n'y avait même pas de bus, Marine. Tu te rends compte comment elle était le faire, quoi.
Ah, mais situation très dégradée pour l'Odine. Hein. On entend le cri du cœur.
Non, puis en plus, maintenant, il n'y a plus de trottinette électrique à Paris.
C'est une honte.
Comment on fait, je vous le demande. Par contre, pour revenir sur le débat précédent, très bien, le théâtre, j'adore. Personne prend le vélo ici. C'est quoi cette génération
non,
là
non, non, non. Depuis, attendez, moi aussi, j'étais très ok, c'est super le Vélib, tout ça. Une fois, je pars. Vous voyez, le pneu de la roue était complètement enlevé. En fait, j'ai failli me tuer en plein milieu d'un. Donc, juste par souci de vie, c'est une saignette.
Ouais, je t'assure que toutes ces années, depuis que je suis à Paris, j'ai vu des Vélib sans frein, sans roue. Sans
mais rien. Oui, non, mais c'est très dangereux le vélo c'est à Paris. Hein. L'objet vélo Vélib est dangereux.
Vérifiez que le frein arrière marche mieux que le frein avant, sinon, vous faites un soleil.
Ah oui, c'est ouais, voilà, mon front s'en souvient. Ça a été fait plusieurs fois.
En tout cas, j'espère que vous ne mourrez pas en Vélib. Ne nous écoutez pas. Mais surtout, Cours d'honneur, c'était aussi de la musique qu'on peut écouter en Vélib. Ça, c'est cool. Il vient de sortir un nouveau projet qui va sûrement confirmer son statut d'espoir du rap français. On s'écoute Sourire d'une tombe de Ness, issu de l'album Ça va aller.
Yeah. Faut accepter de faire des quêtes, des couplets de merde. Parfois de voir un refrain se buter au Xan par trois par terre. Personne te capte à part toi, c'est parfait. Faut accepter de voir sa mère pleurer. Crois-moi que je l'ai pas fait par choix. Le plus important c'est d'avoir les deux yeps sur terre. Je fais pas la superstar, je suis pas une superstar, hey. Mais 11, c'est juste des maquettes qui ont bien tourné. On bute sur les accros concrets, suffit juste de les contourner. Faut accepter les remarques, qu'on est nul, qu'on est naze. Avec ma team c'est facile. On se parle à, on se comprend comme par télépathie. Faut accepter d'être vu comme un alien, juste parce qu'on vit devant un micro. Je capte pas, ça va vite, j'ai ma tête dans un micro-ondes. Sans ce truc, j'aurais rien. Mais personne perd, aux yeux de ma mère, avec ou sans stream, je sais qu'elle m'aime pour vrai. Faut accepter d'être mal compris. Connard, c'est pas que de la démo, c'est l'art qu'on prime. Hein? On fait de la psychomax, toujours avec Chico Max. Dans un plat, un appart, la fumée de oui, marmite dans un petit coma, j'ai la migraine de psycho, quack. Dans un plat, un appart, la fumée de oui, marmite dans un petit coma. Yeah. Faut accepter de voir la misère du monde dans le trône, dans le tram, tout part, au meilleur se passe, où mes yeux se posent. Je répète, faut accepter de faire des quêtes, des couplets de merde parfois. Voir un refrain, buter au xan par trois par terre. Personne te capte à part toi, c'est parfait, yeah. Faut accepter d'être seul, tant mieux si t'as le seum, tant mieux si t'assumes, c'est mieux si t'assures. Ma grand-mère me parle, c'est mes citations. Puis je médite à fond dans la partie, je fonce, suis dans la partie, je conce, toi t'as jamais de chance, tant mieux si t'as le seum. Et les vis d'harcèles, tu retiens la leçon, tu te relèves, tu tombes. Ma mère pleure encore, j'ai le sourire d'une tombe.
C'était Ness dans Cours d'honneur. C'était Ness dans Cours d'honneur. Sourire d'une tombe sur l'album qui vient de sortir, ça va aller. Et pour terminer cette émission comme il se doit, voici Mélina et son invité poésie.
Je crois que la poésie sont des rêves de bonne qualité.
Il n'y manque que ma petite touche perso.
C'est l'art de rêver et de faire rêver aussi.
À chaque émission, son nouvel invité poésie. Aujourd'hui, Mélina, dans ta chronique poésie contemporaine, Poésie en Sorbonne, tu reçois le poète performeur, compositeur, Ferdinand Legendre, que tu surnommes le couteau suisse de la poésie contemporaine.
Oui, Abel, c'est très vrai, mais c'est un surnom purement amical. Nous avons effectivement la chance de recevoir ce soir Ferdinand Legendre, 10 ans de poésie contemporaine à son actif, avec des très nombreuses récitations sur des scènes de poésie, telles que Mange tes mots ou Les grandes histoires, la création et la participation au groupe de musique Poussy Chérie et plus récemment Une vraie gothique. À la frontière entre poésie et techno, il fait aussi partie du collectif Pulsion qui organise des DJ sets dans tout Paris. Ferdinand, c'est aussi le bordel de la poésie, un concept importé des États-Unis depuis 2015 qui consiste en l'organisation de soirées de lecture privée de poèmes regroupant une dizaine d'artistes poètes, poétesses. Mais Ferdinand, c'est aussi et surtout un recueil à paraître. Je ne sais pas quelle heure il est et ça ne me regarde pas. Recueil illustré par Valentine Cuny-le-Calais, qu'on embrasse, lauréate du Grand Prix Artemisia de la BD et du Prix Fnac France de la BD. Et c'est un recueil dans lequel il revendique une poésie sombre et urbaine, en contre-pied à la forme classique d'une poésie plus traditionnelle. Ferdinand, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Cours d'honneur.
Merci, c'est un plaisir.
Merci à toi. Être poétesse ou poète aujourd'hui, est-ce que c'est forcément être aussi un musicien, un comédien, un compositeur, un performeur, etc.
Alors je sais pas pour les autres, mais moi c'est sûr que j'ai jamais su choisir. J'ai toujours fait plusieurs trucs et j'ai pas voulu me cantonner à un style. Et j'ai la sensation, en fréquentant des scènes parisiennes, que je ne suis pas le seul dans ce cas, parce qu'on a souvent des performances qui mélangent musique, stand-up, slam, clown parfois. Et ouais, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une ouverture de la poésie sur plein d'autres genres et qu'il y a un vrai renouveau. Depuis une dizaine d'années maintenant que je fais de la scène, j'ai la sensation de voir de plus en plus de gens, en fait, tout simplement. Alors peut-être parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi, mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de gens et plein de pratiques différentes. Donc peut-être qu'on peut dire ça, ouais, peut-être que la poésie est plus ouverte aujourd'hui sur plein d'autres choses.
Tu as failli appeler ton recueil, je cite, « Je ne veux plus de ces merdes de fleuristes ». Cette figure analogique du fleuriste revient souvent dans ton recueil. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont-ils ou qui sont-elles ? À quoi est-ce qu'ils font référence ? Et pourquoi est-ce que tu essayes de t'en détacher le plus possible ?
Alors déjà, j'ai beaucoup de tendresse pour les fleuristes. Les vrais fleuristes comme ceux que j'appelle les fleuristes. Alors la fleuristerie, dans ce néologisme que j'utilise, en réalité, c'est lorsque tu fais beaucoup de scènes, tu entends beaucoup de gens. Et moi, j'ai une pratique de la poésie qui est très liée à la pratique du rap. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on monte sur scène, on est un peu en battle contre les autres. Et tout le monde n'a pas cet aspect compétitif, mais en l'occurrence, moi, je l'ai. Donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire « cette personne est meilleure que moi » ou « cette personne est en dessous ». Et de temps en temps, quand j'entends des personnes qui n'ont que de la forme et pas de fond, je les appelle les fleuristes. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils font des super belles phrases, mais je ne suis pas touché, je ne suis pas remué, ce n'est pas mon école en fait. Il y a des jongleurs de mots qui sont excellents, qui peuvent improviser, moi je suis incapable d'improviser. Par contre, ça ne me touche pas, ça ne me remue pas, et donc je les appelle les fleuristes. Mais c'est encore une fois, c'est avec beaucoup de tendresse, parce que moi-même je fais de la fleuristerie parfois. Je pense que toute poétesse, tout poète est un jour confronté à une phrase et se dit « oh là là, je m'écoute écrire ». Et c'est un petit peu ça que je pointe du doigt avec ce titre-là, mais j'ai finalement opté pour « Je ne sais pas quelle heure il est ». Et ça ne me regarde pas, qui me semble plus en adéquation avec ce que je défends dans mon recueil.
Et tu mentionnes justement l'importance de cette poésie écrite pour être récitée. Et tu voulais justement nous partager le dernier poème que tu as récité sur la scène des grandes histoires, donc il y a moins d'une semaine, et qui s'appelle « À bientôt seulement ». On t'écoute.
« À bientôt seulement ». Comme d'habitude, j'ai pris des notes et des notes. Tourné mes phrases longuement dans ma tête et dans ma bouche. J'ai soumis à des conseils millénaires quelques tournures séculaires. Une fois sur le plateau d'acier, en haut de la falaise, j'ai murmuré aux tempêtes ce qui m'empêchait de terminer ma quête. J'ai remusé ma bure, patché mon sac avec des logos de groupes que plus personne ne connaît. J'ai élevé mes textes à la dure, je me suis vu reproduire des comportements toxiques avec des mots mal éduqués que parfois je retenais. Je n'étais pas équipé. Pourtant, j'ai pris l'ascendant sur mes adversaires avant de m'effondrer derrière. Je n'ai pas le mental pour certaines phases de la compétition. Là où l'on m'attend, j'échoue par esprit de contradiction. Je m'étais donné 10 ans dans lesquels j'avais placé un bon bouquet d'espoir. Mais fourbu, cassé, abîmé par des problèmes de santé, je me suis retrouvé assis sur un fauteuil en osier, tel une Emmanuelle écoutant des fleuristes chaque soir. Grommelant comme un ancien, coincé dans une jeunesse interminable, engoncé en moi-même, courroucé par ce que l'on malmène sous influence, son corps et sa patience. L'éternel jeu et l'impossible choix entre se préserver ou vivre. L'entrain que je mettais dans la découverte d'autrui s'est tari. Les mains tendues se sont faites griffues, du moins c'est comme ça que je l'interprétais. Ce que j'ai fait entrer dans mon gosier, ce que j'ai fait glisser dans mes poumons a rendu la nuit plus tendue. Et l'impression d'être une déception, la pluie plus drue. J'ai cherché l'apaisement dans des objectifs moins élevés, puis suivi des serpents sur des avant-bras. Des marches du temple sans attrait, je me suis détourné, j'ai fait d'autres choix. Paris m'a baigné de nuits ensorcelées, tour à tour précepteur, puis dealer de dopamine, écartant mes ailes froissées pour que contre mon torse tu puisses t'enfouir. J'ai répondu, non, ce n'est pas obligatoire que tu me fasses jouir. J'écris de la poésie à la baramine, fustige le baratin, les discours éreintants. Il m'arrive parfois d'être un poil dur avec les gens, et avec moi-même toujours plus exigeant. Dans ma folle épopée, j'agripperai complètement celles et ceux que je veux conserver, comme cette poétesse et ses mots énervés, pour qui, si elle le veut, j'enlèverai mes vêtements. Un ou deux tres puntos, c'est mon cocktail fétiche. Je veux des vagues, du matos, le reste, je m'en fiche. On marche côte à côte et j'entends tes enjeux. J'aime bien me taire aussi. J'écoute Madame Fontaine, je vis dessous une scie. Évidé comme un fiche, je suis creusé du bide. J'aime tant quand tes mots glissent, j'avais perdu patience et tout me semblait lisse et tout me semblait vide. J'aime fondre dans tes mots de poétesse. Ils sont rugueux, ils accrochent, mais passent tous les obstacles. Ils prennent de la vitesse, driftant dans les virages, dans un mouchoir de poche, au volant d'une Subaru bleue. Comme d'habitude, j'ai pris des notes et des notes. J'avais de pleines poignées de phrases, assaisonnées à l'emphase, accompagnées de bières de chez l'épicier d'en face. Je me suis immergé dans un bain, regardé dans une glace. J'ai négocié avec des démons infiltrés, avec des dieux amers. Tout ceci n'enlèvera pas la tumeur du corps de ma mère. La vie n'est qu'une suite de low kick et de feulement, drapée de privilèges. Je n'ai pas de filtre et j'en tousse. Les vitres sont pétées. Pour te voir, je retire la mousse et je murmure. À bientôt seulement.
Merci. Merci beaucoup pour ce partage.
De rien.
Ça fait toujours énormément de bien. Oui. Applaudissons. Merci. ça fait toujours énormément de bien d'écouter des performances en direct comme celle-ci, donc merci pour ça. Pour finir, j'aimerais parler de ta dernière actualité, le groupe de musique Une Vraie Gothique que tu as créé avec Claire Parizel. Vous composez vous-même vos instrus dans un style de musique que vous appelez Train Fantôme et écrivez vous-même vos paroles à la frontière entre l'allemand et le français, toujours dans ce style sombre et urbain. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'origine de ce projet et définir ce nouveau style de musique dont vous êtes à l'origine ?
Avec Claire, on s'est rencontrés il y a un an dans une crémaillère et assez rapidement, on s'est rendu compte par look interposé qu'il y avait sûrement des accointances entre nous deux. On a discuté de musique et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait une adolescence commune d'un point de vue musical, pas du tout personnel. Elle a grandi à Metz, j'ai grandi à Paris, on n'a pas du tout la même vie. Et ce qui est sûr, c'est qu'au début, elle m'avait demandé de faire de la musique pour une performance. Elle faisait une performance dans Paris autour du Tigre, donc j'en avais composé un morceau d'électro-disco qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, on s'est dit qu'on aimerait bien continuer à faire de la musique ensemble parce que ça avait bien marché. Et on s'est naturellement tourné vers quelque chose de très sombre, de très dark, et en même temps de fun parce qu'on est deux personnes assez joviales et on aime l'humour. Et du coup, on est tombé sur une espèce de juste milieu entre l'hommage et la satire. Ça veut dire quelque part l'hommage au groupe qu'on écoutait quand on était plus jeune, des trucs gothiques, dark. Voilà, on a fait pas mal de soirées tous les deux, et enfin chacun de notre côté. Et en même temps, quelque chose de drôle et de marrant parce que on aime le fun et on aime aussi se moquer de nous-mêmes et se moquer des différents looks qu'on peut porter, des attitudes qu'on peut avoir et de certains airs affectés que peuvent avoir parfois nos comparses gothiques et goths. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça du train fantôme, ça veut dire que c'est sombre et en même temps c'est fun.
Et on écoute tout de suite un extrait de votre dernier morceau, L'Auto du démon, sur Cours d'honneur. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ferdinand, pour le partage et les émotions. On peut te retrouver toute l'année sur scène à Manche Témo au Lou Pascalou, dans le 20e arrondissement de Paris. Très prochainement au Bordel de la Poésie, le 26 novembre, aux Écuries, rue Bachaumont, dans le 2e arrondissement. Et sur toutes les plateformes de streaming avec tes projets musicaux, Une Vraie Gothique et Poussy Chérie. Et sur Instagram, de toute façon, tu partages toutes tes actualités. Donc, Ferdinand, trait du bas, légende. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous.
Merci beaucoup Ferdinand, merci beaucoup Mélia, c'était incroyable, ça, je pense que ça met tout le monde d'accord cette chronique, ça apaise les gens et c'est bien, pour la fin c'est parfait et j'adore ce que tu fais. Et chaque invité que Mélia ramène sont vraiment des pépites. Mais merci. En attendant il est 21h et voilà, c'est la fin de cette émission de Cours d'honneur, désolé. Un épisode plus que spécial, puisque c'est moi qui l'animais, évidemment. Merci à toute l'équipe d'avoir été au rendez-vous, comme d'hab. Alors, normalement, vous parlez pas bon en ce moment-là. Non, les micros sont coupés, ça sert à rien de parler.
C'est bon, on les ouvre.
Oui, c'est les micros sont ouverts, vous pouvez dire vos bêtises. Hein. Non, ok.
Non, trop tard, trop tard.
Merci à Victoire, Mélina, Lodine, le régisseur, Louane, Maëlys, Marine. Non, Thomas, excuse-moi, je vais me faire virer de l'émission. Ça. Retrouvez l'épisode en replay sur les plateformes de RSU. Merci à Radio Campus pour l'hébergement à un vendredi par mois et au service culturel pour leur soutien. Rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, on vous fait des bisous.
Bisous!
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.